les titres du journal.
Et au sommaire de ce journal, la colère d'une région qui ne veut pas devenir la poubelle de la Corse. Le collectif Tavignano Vivo manifeste à Ajaccio. Nous irons à Bonifacio pour voir comment peuvent être gérés et la sécurité et le trafic dans les Bouches. Et puis il sera aussi question d'Alain Ferrand et de Pierre Alessandri, deux membres du commando Erignac qui demandent leur rapprochement. La Ligue des droits de l'homme est soutenue par tous les parlementaires de Corse. Et puis la Méditerranée et le sport, sport entre guillemets, avec un arbitre agressé.
Cette grande édition vous est présentée par Didier Arnoux. Bonjour.
Bonjour. Et on débute ce journal avec le dossier de la gestion des déchets ménagers de la Corse. Le dossier est délicat. Depuis des années, aucune majorité n'a résolu le problème. Un problème qui parcourt les régions de site en site. En ce moment, à Ajaccio, une manifestation est en cours, celle du collectif Tavignano Vivo. Cette association de défense de l'environnement s'insurge depuis plusieurs années contre le projet de centre d'enfouissement de Diuncaiu. Un projet autorisé il y a deux semaines par une décision en appel du tribunal administratif de Bastia. Le collectif de riverains qui craint pour l'environnement du site, où est prévu le centre d'enfouissement de déchets d'une capacité de 170 000 tonnes par an. Olivier Castel, vous êtes sur place, vous êtes à Ajaccio. Que font les manifestants à présent ?
Écoutez Didier, ils sont sous la couronne au carrefour de la place Diamant. Ils sont une soixantaine avec des pancartes et notamment ce slogan « L'État avait dit non, la justice dit oui et maintenant ». Point d'interrogation. Les manifestants ne comprennent pas en fait pourquoi est-ce qu'en 2016 le préfet de Haute-Corse Alain Thirion avait dit qu'il s'opposerait à ce projet et qu'aujourd'hui après la décision du tribunal administratif de Bastia le préfet Ravier ne s'y oppose pas. La préfète de Corse Josiane Chevalier a fait savoir tout à l'heure aux manifestants que non, elle ne les recevra pas aujourd'hui. Son cabinet nous précise qu'il n'y a plus lieu selon eux pour l'État d'intervenir puisque à l'époque des objectifs de tri avaient en fait été fixés et qu'aujourd'hui ces objectifs depuis 2016 n'ont pas été atteints. Alors les manifestants, eux, sont bien décidés à se faire entendre. Tout de même aujourd'hui, ils sont calmes, entourés par quelques policiers à moto et surveillés de loin par 5 camions de CRS et au cas où une barrière anti-émeute. Des manifestants du collectif Tavignano Vivo qui distribuent des tracts aux passants, aux touristes également. Ils expliquent dans ces tracts avoir été trahis par l'État et posent la question en ces termes, je cite, « mensonge, point d'interrogation, stratégie politique, point d'interrogation ». La manifestation se poursuit ici à Ajaccio.
Merci Olivier Castel. Direction maintenant Bonifacio avec le renforcement de la sécurité des Bouches. C'est la priorité de la ministre de la Transition écologique. Elisabeth Borne était hier sur les lieux où s'est échoué le Rhodanus ce week-end. Qu'à la longue, la ministre a répété qu'il n'y avait pas de pollution constatée à ce stade, mais qu'il est nécessaire de vider au plus vite les 38 tonnes de carburant qui sont toujours dans les cuves et décharger la cargaison du navire. Après quoi, la remise à flot du Rhodanus pourrait prendre de quelques jours à plusieurs mois, selon le résultat de l'inspection des experts qui se rendent sur place cette semaine sur zone. Elisabeth Borne a indiqué hier qu'il fallait en tout cas des mesures plus strictes pour le passage des navires dans cette zone protégée, rappelons-le, des demandes que la France va porter auprès de l'Organisation Maritime Internationale.
Vous savez qu'on est dans une zone qui est reconnue comme une zone maritime très vulnérable par l'Organisation Maritime Internationale et il faut qu'on remonte à la charge pour obtenir des règles plus strictes sur la navigation dans ces bouches de Bonifacio, comme on souhaite aussi les mettre en place dans le canal de Corse, avec notamment ce qu'on appelle des dispositifs de séparation de trafic pour bien gérer les trafics, avec des obligations qu'on souhaite mettre en place aussi, notamment des obligations de pilotage et puis des interdictions pour les matières dangereuses dans une zone aussi sensible que les Bouches de Bonifacio. Donc c'est clairement des demandes que la France va porter auprès de l'Organisation Maritime Internationale en rebondissant, si je peux dire, sur cet accident qui, fort heureusement, n'a pas eu de conséquences en termes de pollution.
Autre commentaire, celui de l'Association de défense de l'environnement Robin Desbois, qui demande un changement de réglementation pour la navigation dans les Bouches. Après l'échouement du Rhodanus, l'association dénonce des règles trop souples, notamment celles concernant le pavillon. Le Rhodanus est propriété d'un armateur allemand. Il bat pavillon d'Antigues et les Barbades lors de son accident. Un pavillon qui permet de s'affranchir des normes sociales européennes. Selon l'association Robin Desbois, Christine Bossard, porte-parole de l'association, dénonce des conditions de travail inadaptées mais permises par ce pavillon.
C'est beaucoup moins strict, les heures de travail c'est à rallonge, c'est les heures supplémentaires à rallonge. Un équipage minimum. Bon, là, il y avait 7 personnes. Oui, l'enquête n'a fait que débuter, mais bon, c'est un navire qui a des déficiences au niveau social, au niveau gestion du personnel. Nous, ce qu'on demande, c'est vraiment davantage de rigueur sur les conditions de traversée des bouches de Bonifacio, parce que c'est une zone écologiquement riche. Le statut de zone maritime particulièrement vulnérable, ça n'a pas de contraintes aussi peu. C'est juste des recommandations. On leur recommande de prendre un pilote pour traverser les courants, pour pas rentrer dans un îlot. Bon, ben non, ça doit pas être une recommandation, ça doit être une obligation.
Interview réalisée par Olivier Castel. Plusieurs milliers de pompiers, de sapeurs-pompiers professionnels vont défiler cet après-midi à Paris pour réclamer notamment une revalorisation salariale, ainsi que des garanties face aux agressions qui se multiplient sur le continent. En Corse, la CGT des pompiers s'associe à ce mouvement national de protestation et a appelé ce matin ses adhérents à faire grève. Son représentant en Haute-Corse, c'est Fabrice Riolacci, et il revient au micro de Patrick Vinciguer sur les principales revendications.
La revalorisation de la prime de feu de 18 à 26%, qui est en gros le calcul du salaire de base et qui n'est pas revalorisé depuis des années. Couplé avec le gel du point d'indice dans la fonction publique, ça fait de grosses pertes pour les fonctionnaires et surtout plus de moyens pour nous permettre de mener à bien nos missions de secours à personne.
En revanche, ici en Corse, vous êtes moins concerné qu'ailleurs par ces agressions à répétition sur des interventions.
Alors, en Corse, nous sommes moins concernés, mais néanmoins, nous avions connu ce genre de phénomène. On se souvient des phénomènes du Jardin de l'Empereur à Ajaccio. Et il y a quand même des épiphénomènes avec des insultes régulières à l'encontre des sapeurs-pompiers lors de diverses interventions. Mais aujourd'hui, peut-être que notre tissu de société nous permet d'être encore à l'abri de ce genre de soucis, mais peut-être pas pour très longtemps.
Fabrice Riolacci, qui était joint par Patrick Vinciguer. Alors que la saison touristique est quasiment terminée, l'Agence du tourisme de la Corse dresse son premier bilan pour la saison 2019. L'ATC se base sur la période du 1er avril au 31 août, période chaude. Les flux de vacanciers sont légèrement inférieurs à ceux enregistrés en 2018. Les locations de type Airbnb ont la côte. Le tourisme, quel bilan ? Quelle analyse, quelle perspective ? Marie-Antoinette Maupertuis, la présidente de l'ATC, répond aux questions de Maxime Beckmer.
RCFM, l'invité de la rédaction.
Marie-Antoinette Maupertuis, bonjour.
Bonjour.
L'ATC donc, qui dresse son premier bilan de la saison touristique, hein, qui n'est pas encore terminée, mais presque. Alors, quelles sont les premières tendances ?
La tendance est que c'est une saison singulière, avec empreinte d'une forte morosité, je dirais, du point de vue des socioprofessionnels. En termes de flux, nous sommes dans les mêmes eaux que 2017. Je rappelle que 2018 a été une année exceptionnelle, d'un point de vue conjoncturel. Là, nous avons effectivement quelques revers par rapport à 2018, moins 1,63%. Mais au-delà du chiffre, c'est surtout le ressenti.
1,63% de fréquentation en moins sur la Corse cet été, ça représente à peu près 90 000 personnes en moins. Et pourtant, les professionnels ont l'impression que la Corse a été complètement vidée de ses touristes.
Écoutez, la Corse n'a pas été vidée de ses touristes, les chiffres parlent. Il y a d'ailleurs encore des touristes actuellement, des événements sportifs et autres qui drainent et culturelles qui drainent du monde. La Corse n'a pas été inondée par une vague touristique, mais il faut savoir aussi qu'il y a une partie de la population qui ne souhaite pas être inondée non plus par des vagues de touristes. Les socioprofessionnels ont raison de s'inquiéter. Mais je crois que la difficulté vient au-delà de la conjoncture, du mouvement de fond qu'il y a dans le domaine du tourisme. Dans le domaine du tourisme aujourd'hui, vous avez une concurrence qui est accrue en Méditerranée, avec pourtant une demande pour la Méditerranée qui a baissé de 8%. Des faillites dans le domaine des transports, nous n'avons pas été affectés directement. Les changements profonds viennent également d'une demande qui aujourd'hui est très volatile. Les gens réservent au dernier moment. Les gens ne vont plus dans des établissements de type hôtel, camping, etc. mais favorisent de plus en plus les plateformes d'hébergement de type Airbnb et autres. Vous avez donc une demande qui a fortement évolué et concomitamment une offre qui est pléthorique. Dans la lignée de ce qui s'est passé ces 4 dernières années, avec des croissances importantes du nombre de touristes, beaucoup d'entrepreneurs se sont lancés. Donc du coup, vous avez un ressenti évidemment qui est négatif.
Donc une trop forte densité commerciale. Il y a trop d'offres de restauration encore.
D'offres d'hébergement. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire trop ou pas assez en économie. Aujourd'hui, on a une offre qui est très importante. Alors, paradoxalement, on n'a pas forcément les prix qui baissent. Vous avez une offre dans le domaine de la restauration. Je ne parle pas des restaurants traditionnels. Ce n'est pas ça qui pose problème, surtout que la qualité est au rendez-vous. Mais par contre, vous avez des points de vente d'éléments de restauration, des cafétérias, des pâtisseries qui se mettent à faire des salades, etc., etc., qui a explosé. On est dans du plus 23-25%. Si face à cette offre, vous avez une demande qui reste quantitativement la même, mais qui en plus dépense moins, forcément, le ressenti n'est pas bon.
Et puis on a ce phénomène Airbnb et autres plateformes de réservation de particulier à particulier. Qu'est-ce que le pouvoir public peut faire? Quelle action publique pour contrer cette économie ou du moins la recadrer?
Alors moi, je dis toujours qu'aujourd'hui, il faut le répéter, on n'est pas en économie centralisée. Donc, ça c'est valable pour ceux qui décident de se lancer dans le tourisme, comme pour Airbnb. Airbnb, on est sur une vague d'ubérisation de l'économie qui a son intérêt, deux intérêts. D'abord, c'est une économie du partage et deuxièmement, une baisse des prix pour le consommateur. C'est une donnée. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien. C'est une donnée.
Il faut faire avec.
Il faut faire avec. On est effectivement sur un train de technologique, sur un train de modification des usages et des comportements aussi de consommation. L'offre Airbnb peut être régulée un tant soit peu, notamment, alors je sais qu'il y a actuellement une décision qui est devant la Cour de justice européenne pour qu'il y ait une régulation qui se fasse en Europe concernant Airbnb, essentiellement pour des raisons fiscales, c'est parce qu'Airbnb ne paye pas les impôts qu'il devrait payer. Enfin, au niveau des régions, c'est essentiellement les communes qui agissent, on le voit bien. Paris, Barcelone, les grandes villes se sont mobilisées parce qu'il y a des effets induits d'Airbnb. Autant le résident, lui, a un complément de revenus, et ça, ce n'est pas gênant. Du point de vue microéconomique, c'est intéressant. Mais autant les effets sur la communauté et la collectivité peuvent être des effets pervers. Du bruit, de l'encombrement, des difficultés dans des immeubles qui sont quasiment loués totalement en Airbnb dans les centres-villes. Donc, vous voyez bien qu'il y a des interventions à faire, et évidemment, en matière de taxes de séjour.
Dernière chose, le coût, parfois exorbitant, des transports, hein, qui est pointé du doigt par les touristes, mais aussi par les socioprofessionnels. Quelle action vous pouvez avoir, la TC? Est-ce que c'est le rôle de la TC d'intervenir dans ce domaine-là?
La TC n'intervient pas sur le coût des transports directement. Ce n'est pas dans ses attributions et la loi ne le permettrait pas d'ailleurs. Par contre, nous avons un travail très, très rapproché. Les transporteurs, et très prochainement, je rencontrerai les transporteurs maritimes. C'est fait pour l'aérien. Je rencontrerai les transporteurs maritimes. Je n'ai pas interféré sur la question du coût. Ce sont des entreprises. Là où la TC est intervenue d'ailleurs cette année, c'est effectivement sur l'identification des marchés porteurs. Nous pouvons également réfléchir sur des campagnes de promotion de la destination. C'est effectivement la nécessité de coordonner les acteurs de la chaîne touristique. Ça va de l'exploration de nouveaux marchés au transport, à l'hébergement, la restauration, et ne pas oublier les territoires. Les territoires, les intercommunalités qui, elles, produisent des contenus aussi, et tous les secteurs qui sont concernés à un moment donné par la demande touristique.
Marie-Antoinette Maupertuis, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce matin.
Merci, après.
RCFM, toute l'info.
L'info continue sur RCFM. On parle maintenant d'Alain Ferrandi et de Pierre Alessandri, deux membres du commando Erignac, condamnés en 2003 à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 18 ans. La sûreté a pris fin en 2017. Les deux hommes demandent leur rapprochement dans une prison insulaire. Mais leur inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, les DPS, constitue un obstacle majeur. Il y a quelques minutes, à Paris, au siège de la Ligue des droits de l'homme, les 6 parlementaires de Corse, députés et sénateurs, ont demandé à ce que Ferrandi et Alessandri soient désinscrits du répertoire DPS. La loi doit s'appliquer à tous, dans toutes les dispositions. Malik Salamcour, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président national de la LDH, la Ligue des droits de l'homme. Vous avez été sensibilisé au dossier Alessandri Ferrandi. Selon vous, pourquoi les deux restent-ils DPS ?
On est sensible à ce sujet depuis l'origine, tout simplement pour que l'état de droit et que le droit commun soit appliqué en Corse comme il l'est sur l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, on voit que ces deux détenus, pourtant ayant maintenant fini leur période de sûreté, ont des arguments qui leur sont opposés pour pouvoir être rapprochés, qui ne sont pas fondés en droit. Aujourd'hui, on a un traitement particulier de ces deux détenus. On ne veut pas les rapprocher. Et manifestement, c'est une décision politique qui le bloque. Le fait que les 6 parlementaires de toute sensibilité politique représentés en Corse, les 4 députés, les 2 sénateurs, disent d'une même voix la même chose, que le droit doit s'appliquer, le droit européen qui préconise que les détenus doivent être répartis autant que possible dans des prisons situées près de leur foyer, c'est aujourd'hui une demande de la société civile corse, mais aussi de l'ensemble des représentants élus de Corse. Ça doit être entendu, les positions du gouvernement doivent être motivées, je pense qu'ils peuvent l'entendre, ça fait 20 ans qu'ils sont détenus, ils ont un comportement en prison qui est tout à fait normal et qui ne pose pas de difficultés de gestion, il n'y a pas de raison objective à ce que le statut de DPS, donc le détenu particulièrement signalé, soit abrogé et qu'il puisse être détenu en Corse.
Pas de raison objective, certains parlent en Corse de vengeance d'État. Est-ce que vous allez jusqu'à partager cette expression ?
C'est une expression qui est forte. Et c'est vrai que l'on a l'impression que dès lors que ce n'est pas la raison, que ce n'est pas le droit qui fonde, qu'il y aurait donc un ressenti particulier. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, il serait un symbole politique fort de tout simplement appliquer la même loi pour tous en Corse, et que cette décision de la ministre de la Justice et de l'administration pénitentiaire, c'est pour ça que nous allons alerter avec cette déclaration commune des 6 parlementaires, va être adressée à la ministre de la Justice, au Premier ministre et au Président de la République, sera entendue. Aujourd'hui, il n'y a plus de raison objective, ou en tout cas, elle devra être motivée, et là, il y aura peut-être des difficultés pour le gouvernement français de justifier ce traitement particulier, on leur demande ni plus ni moins, pas d'être traité de meilleure façon que d'autres, mais certainement pas plus mal.
Alors lorsque le statut de DPS est examiné, il est souvent évoqué comme raison pour rejeter cette demande. Le trouble à l'ordre public, c'est un faux problème, c'est un arbre qui cache la forêt selon vous ?
Évidemment. La question, est-ce qu'un prisonnier détenu sur un territoire peut créer un trouble à l'ordre public ? Je crois qu'au contraire, ne pas entendre la voix des parlementaires, ne pas entendre la voix de la société civile, ne pas entendre la voix des élus de Corse qui disent, ben voilà, après 20 ans, ils doivent pouvoir bénéficier, comme les autres, du droit commun. C'est ne pas entendre justement cet appel à l'égalité qui risque d'être un trouble à l'ordre public. Les raisons qui sont invoquées pour ne pas lever le DPS peuvent être éventuellement entendables, même si elles sont discutables, pour une libération conditionnelle, mais tel n'est pas aujourd'hui le sujet. Le sujet, il est simplement que on a des détenus qui ont fait plus de 20 ans de prison, qui sont aujourd'hui détenus dans le continent, alors qu'ils pourraient l'être en Corse, et que ces demandes sont aujourd'hui refusées pour des mauvais arguments.
Est-ce qu'aujourd'hui, l'affaire Erignac doit être classée ? Alors, je ne dis pas enterrée, mais est-ce qu'il ne faut peut-être pas plus y faire référence dans un souci de réconciliation ? On a toujours l'impression que ça reste un point de blocage entre la société corse et une certaine partie du pouvoir.
Manifestement, le dialogue doit pouvoir se fonder sur la réalité d'aujourd'hui. La réalité d'aujourd'hui, la société civile corse et la société politique corse a bougé. Je crois qu'il faut entendre et voir ce qui se passe sur cette société qui essaie de définir ensemble un avenir commun. Cette société commune qui se construit doit être entendue par l'État. L'État ne peut pas être insensible au fait que il y a des choses qui se passent de manière pacifique et que justement, ces opérations pacifiques doivent être soutenues par l'État. Et que toute attitude qui serait de droit d'exception, de police d'exception, de justice d'exception, de traitement d'exception, ne favorise pas aujourd'hui l'unité nationale et certainement pas le développement de la Corse.
Merci Malik Salamcour, président de la Ligue des droits de l'homme.
RCFM, le sport.
Et un carton rouge à présent dans cette édition pour illustrer notre chronique sport. Carton rouge à l'encontre des agressions dans le milieu du foot, notamment des arbitres. C'est ce qui s'est passé à nouveau la semaine dernière lors d'une rencontre de Coupe nationale de foot entreprise entre Pietrosella et Granach. Une nouvelle fois, car cette agression d'arbitre est la deuxième depuis le début de l'année et dans cette même catégorie, Jean Prounette.
Après plusieurs saisons de calme, c'est en effet la seconde agression sur arbitre en 8 mois. En février dernier, c'est Thierry Gay qui avait été pris à partie. Mardi, ce fut Frédéric Canal, pris à partie par un dirigeant du club de Pietrosella et 2 autres personnes. Fait aggravant, cette agression n'a pas eu lieu pendant le match, mais bien après, sur le parking du stade, comme nous le raconte la victime.
Je viens de me laver, le match s'est bien passé. Ce monsieur, en fait, était en colère Je ne sais pas pourquoi, peut-être de l'élimination. Après, il m'a suivi et il s'en est pris à moi. Il y a beaucoup qui sont venus donc de son propre club venir s'interposer au milieu et l'enlever aussi à lui. Après, il y a eu des mots. Et là, il y en a encore quelques-uns qui se sont énervés, qui voulaient s'en prendre encore à moi.
Cette agression est donc la deuxième en 8 mois. Et toutes deux dans cette compétition de football entreprise, anciennement appelée corporatif, et qui ne se joue plus qu'en Corse du Sud. Une épreuve où les arbitres ne sont même pas obligés d'officiers. Réaction immédiate de leur part, ne plus arbitrer ces matchs jusqu'à nouvel ordre. Décision sous l'égide de l'UNAF et de son président Cédric Pelé.
J'ai rencontré les arbitres vendredi soir, ils étaient un petit peu choqués de ce qui était arrivé à leurs collègues mardi soir. Donc on a laissé passer 2-3 jours, le temps que tout le monde se calme, se repose. On s'est réunis vendredi soir par visioconférence et là, j'ai écouté les arbitres qui en avaient un petit peu ras-le-bol de ce manque de considération sur les terrains en semaine sur ce genre de rencontre.
Victime d'une incapacité totale de travail de 2 jours, Frédéric Canal a subi là sa 3e agression en 22 ans de carrière, la première en dehors des terrains. Lui, comme tous ses collègues, aimerait bien que cela se termine.
Je trouve ça grave, quoi. Ben, à chaque fois, c'est un éternel recommencement, quoi. Je pense que ils n'ont pas compris qu'on fait partie du jeu. Pour eux, ça devient banal, en fait. Ils oublient le foot et un défouloir, quoi.
Un défouloir beaucoup plus fortement sanctionné pour ses auteurs depuis l'apparition de la loi Lamour en 2006. Une loi qui classe les arbitres comme chargés de mission de service public et à ce titre, leurs agresseurs risquent des peines de prison ferme.
RCFM, 12h, 12h30, l'info.
L'info se poursuit avec le comité de suivi et le comité scientifique et environnemental pour le nouveau port de Bastia qui a été installé hier. Premier ordre du jour, la présentation des études demandées en 2014, lancées en 2017 sur le projet dit de la carbonite. À l'époque, seul projet en lice, une étude qui conclut un impact relativement réduit avec une érosion d'une 20aine de mètres jusqu'à 700 mètres au sud de la digue, puis une accrétion, c'est l'inverse de l'érosion, l'accroissement du littoral jusqu'à 2 km au sud. Mais depuis la réalisation de cette étude, 2 autres options ont vu le jour, Portounou et l'agrandissement du bassin actuel. L'ancien président du comité scientifique, Antoine Orsini, revient sur ses études. On l'écoute.
Le travail qu'a fait par les scientifiques, c'est sur l'ancienne maquette, entre guillemets. Et donc, c'est vrai qu'on peut imaginer qu'en réduisant la voilure et en déplaçant de 300 mètres vers le nord, l'impact sera minime. Mais il y aura un impact quand même sur le passage de la Rinille. Aujourd'hui, on demande de plancher sur 3 scénarios. Le pont actuel agrandi, qui, je pense, pose beaucoup de problèmes. Et après, les 2 autres scénarios, le port de la carbonite, où il y aura quand même un gros impact, mais le Portounou, qui sera quand même entre les deux, c'est-à-dire moins d'impact, mais avec des surfaces de quais moins importantes et donc peut-être moins de bateaux. Moi, je me positionne plus sur est-ce que demain, en Corse, on veut 10 millions de touristes sur les routes? Est-ce qu'on veut avoir en même temps 9 ou 10 bateaux de 400 mètres de long en même temps au port de la carbonite? Je sais pas. Moi, je suis pas chaud, globalement, sur toute la Corse. Est-ce qu'on a les infrastructures aujourd'hui pour l'eau assainissement pour accueillir 10 millions de touristes? Vous avez compris que je caricature, hein, mais certains voudraient peut-être 10 millions de touristes.
Coup de projecteur maintenant sur un événement, la 9e édition de Bastia Ville Digitale. L'événement a débuté hier, se poursuit, s'achève ce week-end avec plusieurs événements dans l'événement, notamment des conférences, des découvertes, des débats, initiations. Les activités sont nombreuses, comme les publics d'ailleurs. Ce matin, au Centre culturel L'Albor, où s'est ouvert le 3e congrès des Corsican Business Women. Et pour en parler, Caroline Tarsitano, bonjour.
Oui, bonjour Didier Arnoux.
Bonjour, votre congrès rassemble des femmes aux innovations plurielles, porteuses à la fois de forces économiques et toutes en quête de sens. C'est ainsi que vous le présentez. Alors, pourquoi la quête de sens d'abord? Est-ce que la volonté d'entreprendre pour faire du business, tout simplement, ne suffit pas?
Alors, elle pourrait suffire, mais c'est vrai que à travers le spectre de femmes que l'on mobilise, on a voulu mettre l'accent sur des femmes pour qui il était important de se mobiliser en fait au niveau de la société et au niveau des innovations avec des forts impacts écologiques, des impacts solidaires. Et en termes d'innovation, les femmes que l'on rassemble aujourd'hui ont toutes traduit un projet en ce sens. Donc on a vraiment voulu mettre l'accent là-dessus parce qu'on a à la fois une plateforme au féminin, mais aussi qu'on œuvre pour la société corse.
Alors, une étude sur l'entrepreneuriat au féminin révèle que les femmes voient dans la création de leur entreprise un véritable projet de vie. Elles sont ainsi 37% à déclarer avoir créé leur entreprise d'abord pour se sentir plus autonome. 35%, on en parlait, pour donner plus de sens à leur vie. Et pour 6 entrepreneurs sur 10, l'aventure est un engagement pour changer la société. Est-ce que les femmes seraient plus utopistes ?
Je ne dirais pas qu'elles seraient plus utopistes. Elles seraient plus engagées, enfin qu'elles se mobilisent. C'est vrai que les femmes, généralement, et comme on l'a dit, c'est une entreprise aussi pour nourrir leur famille et assurer le bien-être de leur foyer. Donc, je dirais qu'il y a une pensée plus tournée vers la famille.
Alors, ça, le paradoxe, c'est que cet événement du Corsican Business Woman parle de numérique et qu'on vous entend assez mal. Si vous pouvez bouger un petit peu, Caroline Tarsitano, vous mettre peut-être à l'extérieur, ça sera beaucoup plus agréable pour nous et pour nos auditeurs pour vous suivre. Est-ce que vous m'entendez toujours ?
Là, je vous entends, oui, nous sommes à proximité de la conférence débat.
Oui, est-ce que, justement, et ce sera ma conclusion, est-ce que le secteur du numérique est plus misogyne, plus macho ?
Non, je ne dirais pas qu'il est plus misogyne, plus macho, c'est juste qu'on sensibilise moins les filles, de manière générale, au niveau de leur éducation sur les métiers du numérique ou même les métiers scientifiques. Donc je pense que c'est déjà fort en amont qu'il faut les sensibiliser.
Merci, Caroline Tarsitano, présidente de Corsica Business Woman. Et l'on conclut cette édition avec Marie Ladine, notre chronique méditerranéenne. Dernièrement, l'équipe de Méditerradio, de l'émission Méditerradio, que vous pouvez écouter sur RCFM le samedi de 14h à 15h, a été invitée au festival méditerranéen de Conversano dans les Pouilles, en Italie. Parmi les sujets au programme, la liberté des dessinateurs de presse en Israël, c'est le thème de ce Marie Ladine, signé Pierre-Louis Alessandri.
RCFM en Méditerranée.
À Conversano, dans cette ville de 25 000 habitants, chaque année, le festival méditerranéen Lector Infabula draine près de 300 invités, dont 150 venus de l'extérieur, pour parler culture dans ses dimensions diverses. Durant 5 jours, des milliers d'écoliers, de lycéens, un public nombreux, se pressent aux différentes conférences, 120 en tout, animées par des journalistes, des écrivains, des artistes, des créateurs, des spécialistes de gastronomie venue d'Italie et du monde entier. Cette année, le thème choisi était « La Terre vue de la Lune » pour célébrer le 50e anniversaire de la conquête de la Lune par l'homme. Les journalistes de Méditerradio ont parlé d'identité particulière de notre émission qui met la langue corse dans une dimension internationale, qui pose aussi la problématique de l'insularité et prouve aussi que la liberté de la presse peut favoriser la coopération entre médias de pays différents. Mais dans notre Méditerranée, la liberté de la presse est souvent dévoyée, réprimée même. C'est le cas des dessinateurs de presse en Israël. Michel Kishka, l'un des plus grands dessinateurs de presse israéliens, était présent à Conversano, où il a animé 3 conférences. La liberté de la presse est le chien de garde de la démocratie, dit-il, et le dessin de presse en est la puce qui démange le plus. Le New York Times a décidé de ne plus publier des dessins de presse et en Israël, comme dans de nombreux autres pays du pourtour méditerranéen, les dessinateurs de presse sont malmenés. Michel Kishka.
J'ai grandi avec Charlie Hebdo, avec Reiser, des choses qui aujourd'hui seraient impubliables. Personne ne publierait Reiser tel qu'il a été publié au début des années 70 en France. Sa critique acerbe de la société française, avec tout ce qu'il a pu dessiner, il y a une espèce de régression. En ce moment, il y a le politiquement correct qui a remplacé la censure dans les démocraties, et il est pire que la censure. Parce que la censure, elle avance à visage ouvert. C'est bien que vous parliez du fait que ça se passe dans le monde, parce que moi, c'est la seule consolation que j'ai de ce qui se passe en Israël, c'est que quand je me retourne même vers la France, vers d'autres pays ou les États-Unis, le New York Times, ce n'est que le symptôme de cette maladie. Le hasard a voulu que c'est à cause d'un dessin jugé antisémite que toute cette affaire ait éclaté et que finalement, d'un côté, le journal s'est excusé, chose qu'il n'aurait jamais dû faire. Un journal aussi important que le New York Times aurait dû assumer la responsabilité de ce qu'il avait publié. Ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, c'est pas la caricature qui a été attaquée. C'est la société occidentale et le modèle républicain français dans ce qu'il représente.
Michel Kishka lutte aussi pour le dialogue entre Palestiniens et Israéliens.
RCFM.
RCFM, 12h et pratiquement 30 minutes. C'est l'heure de retrouver le rappel des principaux titres de l'actualité, notamment cette manifestation en courage, celle du collectif Tavignano Vivo, une association de défense de l'environnement qui s'insurge depuis plusieurs années contre le projet de centre d'enfouissement de Dioncad, un projet autorisé il y a 2 semaines par une décision du tribunal administratif de Bastia. Le collectif de riverains craint pour l'environnement du site où est prévu le centre d'enfouissement d'une capacité de 170 000 tonnes par an. La préfète de région sollicitée a refusé de recevoir une délégation. Alain Ferrandi et Pierre Alessandre, et 2 membres du commando Erignac, condamnés en 2003 à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 18 ans, une sûreté qui a pris fin en 2017. Les 2 hommes demandent leur rapprochement dans une prison insulaire. Problème, leur inscription au répertoire des DPS détenus particulièrement signalés constitue un obstacle majeur. Ce matin à Paris, au siège de la Ligue des droits de l'homme, les 6 parlementaires de Corse, députés et sénateurs, ont demandé formellement à ce que Ferrandi et Alessandri soient désinscrits du répertoire DPS. La loi doit s'appliquer à tous dans toutes les dispositions, a ajouté Malik Salamcour, le président de la Ligue des droits de l'homme, qui va porter la lettre commune des parlementaires à l'Élysée, à Matignon et à la Garde des Sceaux. Et puis il n'y aura plus d'arbitre jusqu'à nouvel ordre pour les matchs de foot entrepris en Corse du Sud. Décision prise par la section Corse de l'UNAF, l'Union Nationale des Arbitres de Foot, après l'agression d'un arbitre, des violences verbales et physiques dont a été victime Frédéric Canal, et la semaine dernière, lors d'une rencontre de Coupe Nationale de Foot Entreprise entre Pietrosella et Granach, victime d'une incapacité totale de travail de 2 jours, ce dernier a porté plainte auprès de la gendarmerie et l'UNAF se réserve le droit de se porter partie civile. Il faut savoir que depuis la loi Lamour de 2006, les arbitres sont chargés de missions de service public et qu'à ce titre, leur agresseur risque des peines de prison ferme.